je sais plus qui me disait, bah, t'es dans le fond, un bon coup de talon, tu vas remonter. Quand on est dans le fond, on est dans le fond. Hein. Ouais, c'est terminé. Hein. C'est pas un bon coup de talon, machin. Non, non.
Vous écoutez Pchit, l'émission qui décapsule les préjugés sur la santé mentale.
Issu de la loi de modernisation de notre système de santé, les PTSM ou projets territoriaux de santé mentale ont pour but de favoriser la démocratie sanitaire à l'échelle d'un territoire en donnant aux professionnels de santé le pouvoir d'agir afin de rendre plus lisibles les dispositifs de prise en charge. Six priorités ont été définies. L'une d'elles concerne l'accès des personnes présentant des troubles psychiques à des soins somatiques adaptés à leurs besoins.
C'est pas facile d'aller dire aux gens, parce qu'on sait. Vous voyez, vous en parlez au cours.
Philippe était ingénieur dans une grande communauté urbaine, une carrière sans encombre qui lui permettra également d'être formateur au Centre national de la fonction publique territoriale. Un divorce qui vit mal, suivi d'un changement de vie radical, vont le plonger dans une situation de grande précarité. Il va négliger son corps, ce qui amènera les médecins à devoir l'amputer pour le sauver.
Pourquoi est-il nécessaire et important de prendre soin de sa santé ? Cette prise en charge des soins de santé sont importants pour bien vivre. Mais c'est à partir du moment où vous n'êtes plus capable de faire cette analyse, vous ne prenez plus soin de votre corps, et parce qu'on ne se préoccupe plus de sa santé. Oh, je ne sais plus qui me disait... Bah, t'es dans le fond, un bon coup de talon, tu vas remonter. Quand on est dans le fond, on est dans le fond. Hein. Ouais, c'est terminé. Hein. C'est pas un bon coup de talon, machin. Non, non. Là, c'est mon témoignage, j'ai du vécu. Hein. Vous n'avez plus de rythme. Hein. Vous dites pas, c'est le matin. Si, s'occuper de soi, hein. Vous ne dites pas « c'est le matin, c'est petit déjeuner ». Petit déjeuner, c'est café, gâteau. Non. Après le déjeuner, vous ne faites pas d'effort. Il faut commencer à cuisiner. Il faut commencer à faire des courses cuisinées. Si je veux aller, excusez-moi, si je veux aller m'emmerder et aller faire la queue à Carrefour... pour acheter une boîte de raviolis. Donc on casse les rythmes, donc on s'occupe plus de soi. On mange à n'importe quelle heure et encore manger. Moi je faisais... c'est pour ça que j'étais... j'étais au seuil de la mort. Hein. Ouais. Parce que moi je mangeais... trois fois par semaine. C'est vrai, si, trois fois par semaine. J'ai jamais mangé à table au cours de ces 7 dernières années. Jamais. Je n'ai pas mangé à table. J'avais un semblant de lit, et donc je mangeais là-dedans. Donc là, on en revient à la question. Donc là, on ne s'occupe pas de soi. Pourquoi j'irais m'occuper de moi alors que je suis là? Je mange sur une paillasse. Ouais. Une boîte de ravioli froid. Si, c'est vrai. Et de là, bah, effectivement, on en revient au cœur du sujet. Pourquoi on veut s'occuper de soi? Alors, c'est peut-être difficile à comprendre, hein, mais pourquoi on veut s'occuper de soi? Puisque, bon, déjà, on n'a pas de projection. Je ne vais pas reparler du nos futurs des années 70, hein, avec la crête et... Mais voilà, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de projection. Ouais, mes enfants sont grands, ils sont adultes, hein, peut-être même certainement plus âgés que vous. Qu'est-ce qui me raccroche à cette vie patachon? Rien. Donc effectivement, on s'occupe plus de soi. Avant l'amputation des pieds, moi je vivais encore dans mes 7 mètres carrés, en grande difficulté, bien sûr. Bon, là, bien sûr, en grande difficulté, donc pas bien. Bon, physiquement, j'en parle même pas, parce que là, employons le terme le plus trivial qui existe, avec les jambes pourries, quoi. Donc, on peut pas être bien, hein, on peut pas être bien. Hein. Et là aussi, bah, psychologiquement, très mal. Et avant le geste opératoire, ils se sont aperçus que j'avais des carences énormes, quoi. Je suis arrivé dénutrition. Il y a 3 semaines, hein, on ne vous coupe pas les pieds comme ça, et puis il y a des soins qui sont prodigués au quotidien. Bon, c'est bien aussi, enfin, quand je dis c'est bien, on s'occupe de vous. On s'occupe de vous. Moi, je ne suis pas capable de gérer cette... Enfin, quand je dis gérer ces soins-là, moi, je peux pas les faire. Je ne suis pas infirmier. Moi, je ne suis pas, issu du monde médical. Hein. Mais voilà, là aussi, cette prise en charge, les gens viennent. Et il y en découle, effectivement, un bien-être. Oui, oui. Il y a un bien-être qui apparaît. Ce qui me permet, pour moi, de bien vivre cette situation d'amputation, qui est en réalité un handicap, que je ne vis pas comme un handicap. Et le fait, de, justement, de s'occuper de soi, comme je disais, les choses classiques de la vie. On se remet dans le circuit petit à petit, et on le vit bien. Ouais, et puis bon, là, ouais, on sent son corps, même si ça paraît, on sent son corps. On ressent ce bien-être, bien sûr. À la limite, on en profite. Ce vécu catastrophique qui a duré pour moi, les 7 dernières années où j'étais logé dans ces 7 mètres carrés, mais bon, il y a une décennie que je galère, quoi. À la limite, du mal n'est forcément un bien, comme disait Voltaire. Parce que là, maintenant, j'aborde une nouvelle situation que j'apprécie beaucoup plus.
C'est là que j'ai appris à découvrir du coup le service.
Audrey est éducatrice spécialisée, Anthony infirmier. Ils font partie de l'unité d'accompagnement et de soutien du littoral, un dispositif mis en place par l'AFEJ qui intervient auprès d'adultes en situation de handicap psychique ainsi que leurs aidants. Sensibiliser et donner le pouvoir d'agir font partie des missions de ce service qui fut l'un des premiers à voir le jour dans les Hauts-de-France.
Donc il y a plusieurs facteurs qu'on a constaté ou que les personnes qu'on accompagne nous ont révélé. Donc sur l'accès aux soins, donc il y a déjà les troubles psychiques qui cachent les troubles somatiques. Par exemple, certains symptômes tels que les idées délirantes, les hallucinations, la désorganisation de la pensée, enfin tous différents symptômes de ces pathologies conduisent parfois à négliger les symptômes physiques. Pour les soignants, du coup, il est aussi difficile de pouvoir déceler ces symptômes physiques du fait des troubles du comportement, les agitations, que le discours soit désorganisé. Donc ça complique c'est compliqué pour les soignants de déceler ces troubles physiques. Il y a également le déni de la maladie. Beaucoup de ces personnes sont dans le déni. L'isolement social, les troubles cognitifs également sont des freins à l'accès aux soins. Il y a aussi la stigmatisation qui est une barrière à l'accès aux soins. Donc certaines idées reçues, les préjugés concernant les personnes souffrant de troubles psychiques contribuent à une faible prise en compte des problèmes somatiques. Parfois, les soignants vont se focaliser sur les troubles psychiques, donc ils vont plus chercher à stabiliser ces troubles psychiques et vont omettre de prendre en compte les troubles physiques. Il y a aussi la peur du regard de l'autre, hein, que certains de nos usagers nous ont fait remarquer, que ce soit au niveau des soignants ou tout type de personnes lambda. On peut aussi constater qu'il y a certains professionnels qui ne sont pas forcément sensibilisés ni à l'aise face à des personnes présentant des troubles psychiques, ce qui peut altérer aussi la prise en charge et l'efficacité des soins. On a aussi remarqué des difficultés dans la communication et dans la coordination du parcours de soins. Par exemple, certains médecins traitants ne sont pas toujours informés des soins prodigués en secteur psychiatrique et vice-versa. Il y a aussi la méconnaissance des troubles. Les personnes concernées, mais ainsi que les proches, ne sont pas toujours informées ni sensibilisées sur la pathologie de leurs proches, des symptômes, de leur traitement, des effets indésirables qui peuvent provoquer les traitements. Donc voilà, ça complexifie un peu le discernement de troubles somatiques.
Nous, on a un binôme ES-IDE et c'est un peu la force aussi de cette unité, puisque moi, en parallèle justement du suivi du parcours de soins par mon collègue, moi, c'est principalement sur le développement du pouvoir d'agir, puisqu'on va faire en sorte de discuter avec les personnes. Donc forcément, on discutait de créer la relation de confiance, parce qu'effectivement, c'est la base de toute relation. Et c'est aussi ce qui va permettre aux personnes, à un moment donné, de faire le premier rendez-vous, de nous accompagner. On les accompagne, mais ils nous accompagnent au premier rendez-vous. Et on parlait tout à l'heure de faire plaisir aux professionnels parce qu'ils s'intéressent à nous, parce qu'ils nous accompagnent. Et effectivement, pour le premier rendez-vous, on est dans, bon, allez, ils veulent qu'on y aille, on va y aller. Donc tout le travail vient aussi après. Et justement, c'est aussi amener l'usager à exprimer ses difficultés, les freins qu'il a pu rencontrer aussi dans le passé, parce qu'effectivement, comme disait mon collègue, bien souvent, on se rend compte qu'ils ont été vraiment mal reçus, mal perçus, le fait de donner son traitement, d'expliquer son parcours, de aussi, à un moment donné, ça a été, puis il y a à nouveau une rechute, des compensations, on repart en hôpital, et ça, c'est très compliqué pour eux, et puis au bout d'un moment, au bout de certaines années, effectivement, ils s'isolent, ils n'ont plus envie d'aller vers ces médecins qui, à un moment donné, n'ont pas su forcément répondre à leur attentes. Donc voilà, donc ça c'est un gros travail à faire. Et puis c'est aller de l'avant avec eux, leur dire qu'effectivement, ce que va leur apporter le soin à un moment donné, effectivement sentir mieux dans leur corps, mais aussi sentir mieux psychiquement. Mais c'est aussi venir découper, séquencer toutes ces étapes, parce que pour nous c'est facile d'appeler, de prendre un rendez-vous, de le noter, de s'y rendre, de prendre notre voiture, mais pour eux c'est hyper compliqué. Nous, pour beaucoup, il faut appeler pour eux d'abord, après il faut appeler avec eux, et après il faut les laisser appeler. Mais c'est aussi organiser cette consultation, c'est quels documents je dois prendre, est-ce que je dois prendre mes comptes rendus précédents, etc. Donc il y a tout ce travail à faire, c'est valider chaque étape au fur et à mesure. Alors ça va prendre 2 mois, 3 mois, pour certains ça a pris 2 ans, voire 3 ans, et puis ça, à un moment donné, toujours valoriser et puis les mettre en confiance, se dire que ils sont capables, comme toute personne, de faire ces étapes et d'y arriver. Donc voilà un petit peu comment notre binôme s'accomplit.
On espère que ça aura du poids dans son orientation. Donc vous risquez d'être contacté, on se tient à disposition.
Coordinatrice santé à mi-temps, Mélanie est assistante sociale à la CAO Flandre. Cette association assure l'accueil, l'écoute et le diagnostic social de la situation des personnes sans résidence ou en rupture d'hébergement lorsque celles-ci n'ont pas été prises en charge par un dispositif existant.
L'accès à l'hébergement et au logement est parfois rendu compliqué lorsque les personnes ont besoin d'une prise en charge très soutenue ou plus cadrante que ce qu'on peut proposer en hébergement d'urgence ou en CHRS, ou au contraire plus souple, ou quand elles souffrent de troubles psychiques ou d'addiction. La coordination santé s'est mise en place donc à compter de janvier 2022 et a fait l'objet d'une réflexion partenariale pour en donner les directives. Donc le groupe santé, constitué des partenaires de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion du territoire, s'est alors formé pour permettre la diffusion des informations relatives aux actions santé déployées sur le territoire pour nos publics, de faire remonter les besoins et les difficultés et de réfléchir ensemble aux projets à mettre en place. La coordination santé est assurée donc par un mi-temps assistante de service social, par un mi-temps de psychologue, et nous recherchons donc un médecin généraliste pour pouvoir mener quelques vacations au niveau du service. Ceci donc pour couvrir les besoins d'accès à la santé, tant somatique que psychique. Donc nous intervenons sur la mise en lien, la mise en relation des personnes et des différents partenaires en fonction des problématiques santé repérées. Nous intervenons en soutien aux équipes sur les situations complexes via la mise en place de groupes d'analyse de pratiques, d'organisation d'intervision. Nous travaillons en lien avec la coordination équipe mobile pour aller à la rencontre des personnes qui auraient du mal à pousser la porte de nos locaux. Et nous les accompagnons dans les démarches administratives ou sur des rendez-vous médicaux lorsque nous constatons que la personne n'est pas en mesure de le faire seule. Elle peut ne pas être en mesure de le faire seule parce que c'est difficile de se repérer dans le temps, dans l'espace, du fait de troubles cognitifs ou d'addiction, ou parce que la personne a peur de s'y rendre seule, ou qu'elle a besoin d'être accompagnée pour l'aider à comprendre les propos du médecin, ou l'aider à exprimer ce qu'elle ressent et ce qu'elle souhaite verbaliser. Nous travaillons en étroite collaboration avec des services comme les CIP, donc les équipes spécialisées de soins infirmiers, précarité, avec le MPP également, équipe mobile psychiatrie précarité, l'association Michel et le centre hospitalier de Dunkerque, avec lequel les échanges et le travail sont facilités grâce à l'arrivée d'une infirmière dans le cadre de l'Allée Vert au sein du service social de l'hôpital. Ce travail en partenariat permet aux personnes d'avoir une prise en charge plus adaptée à des besoins très spécifiques. Difficile pour une personne qui souffre d'addiction, par exemple à l'alcool, d'attendre plusieurs heures aux urgences, ou pour une personne fragilisée psychologiquement de se présenter aux urgences sans parfois avoir reçu un minimum de soins d'hygiène, d'expliquer sa situation de rue, d'expliquer qu'il se présente bien pour des soins et non seulement pour se mettre au chaud. Donc mobiliser l'infirmière de la PASS permet qu'une personne puisse rester auprès de la personne accueillie, que le contexte soit expliqué aux infirmiers et aux médecins pour que le protocole de soins soit vraiment adapté aux conditions de vie de la personne.
Et c'est ça qui est important, c'est de nous remettre à notre place dans la posture, parce qu'on sort de l'école, on croit savoir.
Les chiffres sont édifiants. Une personne en situation de handicap psychique voit son espérance de vie réduite de 10 à 20 ans, une surmortalité 4,5 fois plus élevée que la population générale. Mettre en place une démarche d'accompagnement sanitaire et médico-social où l'interdisciplinarité santé mentale, santé sociale et santé somatique permet de mobiliser de nombreux acteurs est l'une des missions du projet territorial de santé mentale Flandre-Maritime, Flandre-Intérieure, coporté par l'établissement public de santé mentale des Flandres et l'AFEJI, animé par Clémentine Cause.
On voit tous ces acteurs autour de nous, autour de la table, sur nos territoires, qu'il faut réussir à solliciter, à mettre en lien pour pouvoir avoir des actions de prévention et de promotion. Parce qu'effectivement, il y a peut-être des actions à mettre en place bien en amont que la santé ne se dégrade et qu'on arrive à des points de non-retour. C'est une éducation thérapeutique adaptée à chaque personne. On a bien vu que là, une maladie, une catégorie de maladie, une catégorie de vulnérabilité n'est certainement pas réductible et que ce sont des personnes avant tout et c'est à nous professionnels de nous adapter à toutes ces individualités. Alors, les personnes qui vivent avec ce handicap, avec le handicap psychique, ont souvent un défaut de conscience de leur ressenti physique, une mauvaise adhésion aux soins, ce qui amène souvent à un retard de diagnostic et à la rupture de parcours de soins. Donc, c'est ces situations qui sont souvent aggravées par un manque d'accessibilité aux structures de soins et aussi à la formation des soignants. Comme on disait tout à l'heure, c'est compliqué de se repérer dans tout ce qui nous est possible d'accéder. Des fois, la maladie psychique nous empêche de pouvoir nous organiser et aller vers. Mais c'est aussi le manque de formation des soignants à s'adapter à la relation du patient. Mais ces formations initiales, finalement, elles seraient certainement bénéfiques pour tous, parce qu'on a tous besoin de se sentir à l'aise et bien accueilli quand on est face à un soignant. C'est déjà assez anxiogène comme ça d'aller vers le soin, d'aller à l'hôpital. Donc le PTSM a différents axes de travail et l'axe au niveau du soin somatique, en tout cas de l'accès aux soins adaptés pour les personnes qui ont un handicap psychique, se décline en trois objectifs. Le premier objectif, c'est effectivement de rendre accessibles les soins somatiques ordinaires, hein, ce qu'on appelle les établissements de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, les établissements MCO. Et souvent, il y a du renoncement aux soins parce que c'est compliqué de se retrouver dans le méandre administratif. Il faut ouvrir des droits, il faut avoir tous ses papiers, il faut savoir quel guichet va pouvoir me donner le bon rendez-vous, le bon médecin, et puis les files d'attente, l'organisation, c'est très compliqué. Le deuxième axe, c'est le soin somatique qui va vers la psychiatrie. C'est tous ces patients qui sont aussi hospitalisés et qui ont à un moment donné hospitalisé en soins psychiatriques et qui ont besoin d'un soin somatique, parce que voilà, on a tous un corps, il peut être défaillant à un moment donné, on peut avoir des complications, et comment voilà, le soin somatique va entrer dans l'hôpital psychiatrique. Alors, logiquement, dans les organigrammes, il y a des médecins généralistes et somaticiens qui font partie des équipes pluridisciplinaires des hôpitaux psychiatriques, des unités d'hospitalisation en psychiatrie. Sauf que démographie médicale faisant, ça reste compliqué. Les unités de soins sont pas forcément adossées à un hôpital général. Donc des fois, c'est compliqué de pouvoir bénéficier de soins psychiatriques en même temps que des soins somatiques et vice-versa. Et le troisième grand objectif de cet axe de travail, c'est cette coordination entre soins de ville, établissements médico-sociaux qui accompagnent les personnes en situation de handicap et psychique, comment on donne la légitimité à un éducateur spécialisé ou une infirmière qui intervient dans un établissement social ou médico-social, d'avoir accès aussi au compte-rendu, d'être présent. Hein, qu'on soit aidant ou aidant professionnel, des fois c'est important aussi d'être auprès du patient quand il y a les consultations, et ça c'est pas forcément évident pour les établissements somatiques ordinaires, en disant monsieur ou madame est assez grand pour pouvoir honorer ses rendez-vous, ses consultations seules. Puis ce fameux secret médical aussi qui fait chasse gardée pour tout le monde, et dans une notion de parcours, dans une dynamique de parcours, tous les professionnels doivent avoir un minimum d'informations pour pouvoir bien accompagner. Donc le PTSM des Flandres, mais comme tous les PTSM de notre territoire français, est là pour faciliter l'accès aux soins, faire prendre conscience aux médecins, aux professions libérales de santé, que la santé mentale est un facteur à préserver, à prendre en considération dans leur accompagnement médical, que la santé mentale fait partie de la santé et qu'eux aussi ont un rôle à jouer, notamment dans le dépistage, dans l'orientation. Et dans cet axe de travail, c'est aussi de réunir tout ce petit monde autour de la table et de se dire, à un moment donné dans le parcours de la personne, on doit travailler ensemble, main dans la main, et comment ça se fait. Et c'est pas forcément évident, parce que tout le monde a la bonne volonté de bien accompagner, sauf qu'on parle pas forcément le même langage, et on a à apprendre à interpréter, à traduire ces différentes langues, qu'on soit libéraux, qu'on soit fonctionnaire de l'hôpital, ou qu'on soit travailleur social. À un moment donné, on est tous là pour les personnes qui sont vulnérables, qui ont un besoin à un moment donné d'être accompagnées dans leur santé. Et c'est pas évident. On n'apprend pas dans notre formation initiale à travailler ensemble, et le PTSM a aussi peut-être ce rôle-là d'interpeller sur les formations initiales et de faire bouger les lignes dès le début, pour que les professionnels, une fois qu'ils sont formés et qu'ils sortent de l'école, quand ils sont au contact des patients, sachent très vite dégainer et travailler ensemble, apprendre à travailler ensemble en coordination.
Accompagner à l'accès aux soins somatiques les personnes souffrant de troubles psychiques est donc un combat. Elles n'ont souvent plus la force d'amorcer ces démarches seules, surtout face à la complexité administrative, mais aussi parfois face à l'accueil qu'elles rencontrent. Philippe a accepté de livrer son témoignage parce qu'il avait face à lui des professionnels investis. Sensibiliser aux postures d'accueil et lever les tabous pour les professionnels de santé font aussi partie de l'axe 3 des PTSM. Leurs territoires ont été définis en fonction des territoires de démocratie sanitaire par l'Agence régionale de santé. Le GHT Psy du Nord-Pas-de-Calais en contient 3, l'Artois-Audomarois, les Flandres et l'arrondissement de Lille.